Auditeurs, auditrices, bonjour. Vous êtes bien sur Radio Galère 88.4. Ce week-end, on va démarrer une expo intitulée Covid Homeless qui se tiendra à la Friche Belle de Mai. Et cette expo aura lieu du 2 octobre au 10 octobre de 15h à 19h les samedis, dimanches et mercredis dans la salle Petit-Rama. Petit-Rama, toujours à la Friche. Notez que cette expo sera libre d'accès et donc gratuit. Qu'allons-nous voir durant cette expo ? De quoi parle cette expo ? Pourquoi cette expo ? Nous allons chercher à savoir tout cela tout au long de l'émission Libre Débat sur Radio Galère 88.4 en direct de Marseille. Dans les studios, nous sommes en présence de Sophie Gisclard, Marine Mosnet et Mathieu Ledu. Alors, il y aura aussi un direct avec Camille Alaria et puis des retours enregistrés de Émilie Mosnier, qui est docteur chercheuse. Alors, cette émission, vous allez m'accompagner tout au long de cette émission hein, pour la construire sur la thématique de Covid Homeless. Et sur la thématique de Covid Homeless, on va parler de l'étude dans un premier temps, en tant que telle, et dans un deuxième temps, de l'expo photographique et sonore. Alors cette expo, elle est réalisée d'une part par Sophie Gisclard pour la partie photographie et complétée par quatre bornes sonores réalisées par moi-même, Yeter Akyaz. Dans cette expo, il y aura donc quatre thèmes présents. Les quatre thèmes sont, tu me rattrapes Sophie, hein, l'autodéfense alimentaire, la débrouille, le logement et les travailleurs et travailleuses sociaux. L'expo va nous enfin si vous y allez en tout cas vous allez plonger dans le quotidien des personnes sans abri en pleine pandémie à Marseille. Qui dit pleine pandémie veut dire pendant le confinement et après le confinement. Elle vous proposera de voir et entendre des matériaux collectés pour une étude inédite de la PHM sur l'impact du Covid auprès des personnes à la rue. Elle sera donc l'occasion de présenter les premiers résultats de l'étude ainsi que les pistes de réflexion en faveur d'une meilleure protection de ce public fragile. Le confinement de la population a bouleversé la vie quotidienne des individus habitant dans des maisons ou appartements, mais qu'en est-il des populations non logées, qui n'ont pas d'abri ? Quel a été leur rapport au risque, donc de toujours de ces personnes sans abri ? Comment ont-ils traversé et perçu l'épisode sanitaire lié au Covid-19. Quelles ont été les ressources mobilisées pour que ces personnes puissent se mettre à l'abri? Ce sont les questions auxquelles cette étude Covid Homeless tente de répondre et que l'expo met en avant afin de rendre visible ce travail par la photo et le son. Alors, je vais juste vous balancer un son de Émilie Mosnier qui va on va démarrer sur l'idée de départ de cette étude et comment est-ce que les professionnels se sont positionnés. Et ensuite, je reviens au studio vers vous, avec mes acolytes, pour réagir et commencer à, en tout cas, tenter de répondre à certains de ces points. On écoute. À l'instant, on y va.
Les constats de cette étude sont de plusieurs ordres. Le premier, c'est que cette étude a plus impacté les populations en situation de sans-abri que la population générale, avec des taux de séropositivité plus importants, au minimum de 2 fois supérieurs à la population générale. L'autre point important, c'est que la crise sanitaire a aggravé la précarité alimentaire, la précarité financière de populations déjà très fragiles. L'ensemble impactant la santé de ces personnes qui, dans plus de la moitié des cas, présentent des comorbidités, c'est-à-dire des facteurs de risque de Covid grave. Le dernier élément qui ressort de cette étude, c'est que les logements en fait, d'urgence paraissent peu adaptés à contenir l'épidémie, c'est-à-dire qu'il va falloir penser à d'autres modalités d'hébergement pour les plus précaires, peut-être avec des prises en charge plus globales, en essayant de repenser l'architecture et l'organisation pour réduire en fait le risque de contagion au sein de ces habitats collectifs. Alors, ce qui est important pour le grand public, c'est de bien voir que les facteurs associés à ces infections plus importantes sont plutôt d'ordre structurel. Les études qualitatives ont montré que les personnes en situation sans-abri étaient très au fait et se préoccupent beaucoup de leur santé, mettent en place des stratégies pour limiter le risque au sein de leur communauté, dans leur activité du quotidien, et malheureusement sont limitées de par des facteurs liés à leur précarité et ou au logement qu'ils occupent, et qui vont augmenter le risque d'infection.
Je suis le docteur Mosni Emili, je suis médecin infectiologue et chercheur en épidémiologie et santé publique au sein du laboratoire du CESTIM. Dans le cadre du projet Covid Homeless, j'avais deux fonctions, celle de médecin investigateur, donc de terrain, de suivi des cas, d'assurer les bonnes pratiques et les recommandations auprès des intervenants et surtout auprès des populations dans le cadre des dépistages, des suivis des cas. Et puis une fonction de chercheuse, c'est-à-dire d'analyse, de construction de la méthodologie, puis de compréhension des résultats et de restitution de ceux-ci dans le cadre de publications scientifiques, mais aussi de restitution auprès des acteurs médico-sociaux de terrain et même auprès des populations. L'idée de départ du projet, ou plutôt la préoccupation commune, c'est l'inquiétude, la convergence des inquiétudes concernant les populations les plus précaires en contexte de crise sanitaire. On sait déjà, par notre histoire, que toute crise sanitaire va favoriser en fait les inégalités de santé, notamment pour les plus fragiles. Et dans le cadre du Covid, cette inquiétude était présente chez le docteur Thomas Bossetti, travaillant à Médecins du Monde à Marseille, et puis évidemment chez le docteur Aurélie Tinlin et toute son équipe qui travaille depuis des années auprès des populations en situation sans-abrisme. De mon côté, j'avais l'expérience de travaux précédents dans le cadre d'autres épidémies à arbovirose et ou à paludisme ou même à Ebola, et on se rend compte que systématiquement, en fait, il faut avoir une attention un petit peu structurelle de ce que sont les conséquences de ces crises sur les populations en situation de sans-abrisme. Alors c'est vrai que l'objectif de l'étude, c'était finalement de vérifier si il y avait une morbi-mortalité, c'est-à-dire un taux de mortalité plus important chez ces populations-là, et le savoir assez rapidement pour pouvoir éventuellement faire du plaidoyer et surtout adapter les stratégies au plus vite auprès de ces publics. Le CESTIM, c'est un laboratoire de recherche qui est basé à Marseille et qui associe à la fois des épidémiologistes, des chercheurs en santé publique, mais également des sociologues, des anthropologues. Et donc c'est une unité pluridisciplinaire qui dépend des tutelles IRD, INSERM, ex-Marseille Université. C'est vrai que notre étude est pluridisciplinaire. Il y avait une attention d'apporter une pluridisciplinarité, que ce soit en sciences sociales, en épidémiologie, en santé publique, en infectiologie, en virologie. Nous avons utilisé des méthodes mixtes, associant des analyses qualitatives et quantitatives, dans le but d'apporter une compréhension plus fine, d'apporter une compréhension de phénomènes complexes que seule une analyse quanti ou seule une analyse qualitative aurait eu du mal à faire émerger. L'autre point important de cette étude, c'est qu'elle a été faite avec et grâce aux médiateurs, aux travailleurs pairs issus des communautés, des populations en situation sans-abrisme, et c'est avec elles que cette étude a été faite. Avec elles et avec l'ensemble du réseau de travailleurs médico-sociaux marseillais.
Voilà. Nous venons d'entendre Émilie Mosnier, qui est médecin infectiologue et chercheur en épidémiologie, santé publique dans le labo CESTIM. C'est bien ça. Alors, là, on va parler en tant que tel de l'étude. Et dans cette étude, ce qui est intéressant, déjà, on va parler de l'idée de départ, de la naissance. Elle en a un peu parlé, Émilie, là. On va rentrer plus dans les détails. Et aussi essayer de comprendre c'est quoi cette recherche pluridisciplinaire. Est-ce que Marine Mosnier, tu peux présenter ton rôle et répondre à ces questions, s'il te plaît ?
Oui, merci Yéter. Bonjour, je m'appelle Marine Mosnier, donc j'étais coordinatrice sur le projet Covid Homeless. En effet, le projet il a débuté en fait en mars, donc durant le premier confinement, mars 2020, où une équipe de chercheurs, dont Aurélie Tinlan, qui est donc l'investigatrice du projet, l'investigatrice principale, Thomas Bossetti, Émilie Mosnier, l'infectiologue, et puis toute l'équipe d'Aurélie. Et on s'est posé la question de se dire, bon, déjà Marseille, c'est quand même une des villes où le taux de pauvreté est le plus supérieur de toutes les métropoles en France, et même en Europe. Et on savait aussi, comme le disait très bien Émilie, que souvent dans les épidémies, les personnes précaires sont doublement touchées. Donc, on a monté le projet. On s'est dit qu'il faut absolument qu'on monte ce projet de recherche, notamment recherche, je dirais même action, opérationnelle, très opérationnelle. Et on a eu très rapidement une réponse positive de notre financeur principal, qui est quand même la DGOS. Et on a monté le projet donc avec la PHM et en partenariat avec Médecins du Monde. Comment ça s'est déroulé? Le temps d'avoir... Parce que vous savez que pour chaque projet de recherche, il faut quand même qu'on ait l'accord de ce qu'on appelle le comité de protection des personnes. Donc ça a pris un peu de temps. Et en fait, on a pu vraiment développer la partie opérationnelle dès le 1er juin. En revanche, en amont, on a beaucoup travaillé avec Cyril Farnier, là, donc de coordination ASAB, qui gère la coordination en fait de toutes les équipes mobiles sur Marseille, donc de toutes les équipes mobiles médico-sociaux, et pour essayer de voir un petit peu où on pouvait inclure les personnes.
Pardon. Quand tu dis équipe mobile, est-ce que tu peux donner des exemples? Ça peut être quel genre d'équipe mobile?
Alors ça peut être par exemple l'accueil de jour, la DJ, ça peut être les équipes mobiles qui travaillent beaucoup plus sur les problématiques d'addiction, style le bus 31-32, style... à Sud, Nouvelle Obs. Et en fait, on bossait avec 18 structures.
D'accord, ce sont toutes ces structures qui sont en lien avec les personnes sans abri.
Exactement, voilà. Parce que pour nous, ce qui était important, c'est de travailler avec les gens qui sont déjà auprès de ces personnes-là, parce qu'il faut vraiment qu'il y ait un rapport de confiance.
D'accord, donc là, on est vraiment dans un cadre plutôt plus ou moins institutionnel, parce que là, c'est que les 18 structures, c'est...
Alors, c'est des structures associatives. C'est des structures associatives de Marseille qui sont financées pour la plupart par l'ARS, parce que donc il y a la partie médico-sociale. Mais c'est des structures très diversifiées, c'est-à-dire qui touchent des publics complètement divers. C'est-à-dire il y a des structures qui vont être plus sur les personnes vraiment vivant à la rue. Il y en a d'autres, ça va être plus de l'accompagnement dans les hébergements d'urgence, d'autres dans les CHRS, d'autres dans les squats bidonvilles. Donc on travaillait beaucoup avec Médecins du Monde, qui était notre partenaire principal, mais également la DAP 13, Emma Emmet, Sarah Lajoutisol, toutes ces différentes structures qui nous ont permis d'identifier en fait les différents lieux où on allait pouvoir inclure et dépister les personnes qui étaient donc qui faisaient partie de notre cohorte.
Donc, ouais. Dans cette étude, il y a donc la partie d'écriture et il y a la partie terrain. Le temps d'écriture, il s'est fait sur quelle période? Parce que qui dit étude, à un moment donné, il va falloir réfléchir. Vous avez déjà l'expérience de terrain, j'imagine. Enfin, toutes ces structures-là avaient l'expérience de terrain. Il y avait urgence. Et c'est pourquoi l'étude Covid Homeless est née.
Exactement. Et l'écriture du projet s'est faite en un mois. Donc avec des allers-retours, parce qu'on était tous dans des endroits un petit peu différents. Parce qu'avec le confinement, on s'est tous un peu confinés dans des lieux différents.
Mais pendant le confinement.
Exactement.
Il y avait ce constat-là d'urgence, il fallait vite écrire, et c'était pendant le confinement.
Exactement. Exactement. Parce qu'on voulait vraiment pouvoir avoir les financements et toutes les autorisations le plus rapidement possible pour commencer nos enquêtes auprès des personnes vivant à la rue dès le premier confinement.
Alors moi, ce que je veux essayer de comprendre, c'est qu'il y avait donc cette écriture. Et il y avait cet état d'urgence, on est d'accord. Pendant le confinement, on a constaté qu'il y avait beaucoup de personnes à la rue qui n'étaient pas mises à l'abri, en fait. Il y avait un besoin de toute manière au niveau du logement, un besoin au niveau de l'alimentation, un besoin à plein d'autres niveaux. Hein. Et en parallèle, je veux dire, ces structures ont continué à travailler.
Exactement. Et en fait, nous, c'est très intéressant ce que tu dis, Yéter, parce qu'en fait, au début, on a développé plutôt l'aspect recherche opérationnelle. Mais en fait, on s'est très vite rendu compte qu'on avait besoin d'une activité supplémentaire opérationnelle, comme tu dis, pour répondre aux besoins alimentaires, aux besoins de suivi des personnes,
de soins,
aux besoins d'accès aux droits, d'accès à l'hébergement. Et rapidement, on a fait une demande supplémentaire à l'ARS. Et du coup, on pouvait gérer le côté plutôt recherche et en même temps un côté beaucoup plus opérationnel avec notre équipe de Covid Homeless, d'enquêteurs, de médiateurs sur le terrain.
D'accord. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est que sur le terrain, pendant le confinement, il y a le confinement et après, il y a l'après-confinement. Mais dans toute cette période-là, dans les deux parties, on est quand même en période de pandémie. D'accord. Dans cette période donc de confinement, il y avait donc des urgences à gérer, en plein niveau, enfin, comme je viens de le dire, au niveau alimentaire, au niveau logement, au niveau soins. Et il y avait ces structures, mais il y avait aussi les personnes, je veux dire les militants, les citoyens, comme on peut dire, qui tout de suite réagissaient sur des demandes par rapport à ces personnes qui étaient dans le besoin. Et qu'est-ce que vous avez constaté par rapport à tout ça? Enfin, je veux dire, dans cette urgence-là, dans cette étude-là, qu'est-ce qui en ressort par rapport à cette période de confinement et ces constats-là?
Ben, en fait, c'est vrai que pendant le premier confinement, même toutes les structures auxquelles on est habitué à avoir accès, que ce soit les Restos du Cœur, que ce soit la Croix-Rouge, enfin toutes les grosses associations, organisations qui travaillent auprès des personnes vivant à la rue, elles ont dû complètement se réorganiser parce que la plupart des structures travaillaient avec des bénévoles, souvent qui étaient des personnes plutôt âgées, et donc du coup qui étaient quand même des personnes à risque, parce qu'on se rappelle bien que les comorbidités, c'était des personnes plutôt âgées, qui avaient des problématiques de santé, notamment le diabète. Donc du coup, il y a eu une réorganisation. Donc en fait, il y a eu beaucoup de gens qui étaient habitués à travailler avec ces structures, qui ont été mis un petit peu à l'abri, en fait, en restant chez elles. Et il a fallu recruter très rapidement des nouvelles personnes, les former pour qu'elles puissent prendre le relais.
Donc réagir à l'urgence.
Exactement, exactement.
Et c'est là qu'on rentre, après le travail d'écriture, donc on rentre dans le travail de terrain. Alors, est-ce que tu peux nous apporter un point? Voilà, nous avons à côté de Émilie Mosnier, Mathieu Leduc, qui lui aussi a été sur le terrain. Est-ce que vous pouvez m'apporter plus d'éléments une fois que vous avez mis en place les choses? Enfin, l'écriture a été terminée, vous avez eu les subventions. Ensuite, il y avait cette approche sur le terrain. J'aimerais bien savoir le territoire et savoir les publics ciblés. Si vous pouvez rentrer dans ces détails-là, ce serait parfait.
Ben, alors, je te passe la parole après Mathieu, parce que Mathieu, c'est vraiment la personne qui était vraiment sur le terrain au jour le jour. Au début, ce qui s'est passé, c'est que donc il a fallu recruter déjà toute une équipe, parce que si vous voulez, les structures sortaient du confinement, elles étaient épuisées. Donc, elles n'avaient pas forcément la capacité et puis l'énergie, en fait, de faire du dépistage en plus et de recruter, donc, d'inclure ces personnes de la cohorte. Donc, il a fallu très rapidement, en fait, recruter une équipe terrain qui correspondait donc à des enquêteurs et notamment des médiateurs. Parce que, si vous voulez, il y avait plein d'endroits où on ne peut pas accéder si on n'a pas accès via des personnes qui viennent de ces communautés-là, ou ce qu'on appelle notamment des travailleurs pairs. Donc ça a été un travail déjà d'identifier ces personnes clés qui nous ont permis, par exemple, l'accès dans des zones genre Corot, Petit Séminaire, où c'était très compliqué d'accès. Donc ça a été vraiment la première partie, et la partie aussi donc, de formation au niveau du dépistage, la formation au niveau du questionnaire, parce qu'on posait beaucoup de questions, parce que nous, ce qui nous intéressait, c'est d'avoir un petit peu le parcours de ces personnes. Où ces personnes avaient pu être hébergées lors du confinement, quelles étaient leurs priorités en termes de besoins. Donc on ne s'arrêtait pas juste sur l'aspect sanitaire. On couvrait vraiment, et d'où le fait d'ailleurs, dont tu disais, Yéter, sur les quatre thématiques en fait de l'exposition, hébergement, problématiques d'accès à l'alimentaire, les travailleurs sociaux et tout ce qui était un peu précarité, débrouille. Donc je te laisse la parole, Mathieu, pour peut-être développer un peu plus la partie terrain, parce que toi, tu étais vraiment sur le front.
Ouais, ce serait bien que tu te présentes ton rôle par rapport à l'étude et au travail de terrain, s'il te plaît,
alors,
Mathieu.
Bonjour aux auditeurs, je vais rebondir.
Et auditrices, ça?
Et auditrices, tout à fait.
Ah, j'y tiens. Hein.
Bien sûr, évidemment. Ouais, en ce qui me concerne, sur cette étude, j'ai été embauché comme enquêteur de terrain, et plus spécialement sur la partie squat et bidonville.
D'accord.
Voilà, et comme tu viens de l'expliquer, Marine, là, en fait, comment on a procédé pour s'introduire dans ces endroits, c'est que finalement j'ai bossé en particulier avec des médiatrices, d'ailleurs, médiatrices issues de la communauté, qui bah voilà, avaient déjà des contacts facilités avec, disons par exemple la communauté nigériane, je pense à Grace avec qui on a beaucoup travaillé, communauté des pays de l'Est, communauté yougoslave si on veut, pour simplifier les choses avec Snejana. Voilà, mais aussi avec Marco, par exemple, pour la communauté Rome. Et toujours bah, dans le fil de ce que tu disais, Marine, c'est-à-dire, en fait, eux avaient déjà établi un rapport de confiance avec ces gens-là, de par la langue, des habitudes culturelles, enfin voilà. C'est des gens
en fait, ce sont ces personnes-là ce sont ces personnes-là qui t'ont introduit directement auprès de certaines communautés ou groupes de personnes.
Tout à fait, ouais. Et souvent, la plupart du temps, finalement, on se déplaçait à 2, 3 ou 4, des toutes petites équipes, pas forcément identifiées sous l'égide d'une organisation, pas forcément d'affichage, ni sur nos vêtements, ni sur les véhicules. Voilà, on se déplaçait comme on était auprès des gens, établir un premier rapport, expliquer ce que c'était que cette étude. Et puis finalement, en fait, c'est tout un boulot d'écoute auprès de gens chez qui on, justement, on va pas forcément chercher beaucoup la parole, à la fois pour du test Covid, mais aussi pour une étude bien plus large au niveau de l'accès aux soins. Et évidemment, on avait affaire à des gens qui ont très peu, voire pas du tout accès aux soins.
Et pas que, parce que moi je pense que sur le terrain, tu as constaté d'autres choses. Il y avait le soin, mais il y avait des besoins. Et moi, je t'avais accompagné sur un travail de prise de son. Et tu ne te déplaçais pas les mains vides. Est-ce que tu peux expliquer aussi ce rapport au terrain? Je veux dire, c'est pas que le soin, en fait.
Alors ça s'est fait plutôt petit à petit. Effectivement, on s'adresse à des gens qui, pour là, beaucoup, ont besoin de tout. Disons, de l'aide qui va être des problèmes de papier, qui sont souvent très difficiles à résoudre, et puis des besoins complètement primaires, c'est-à-dire d'un toit correct, ce qui n'est souvent pas forcément le cas, d'alimentaire, de l'aide pour les produits d'hygiène, et finalement de filer en aiguille, notre étude ayant fait parler d'elle, et puis surtout les gens qui ont travaillé sur le réseau avec un paquet d'associations, ça a permis de récupérer et d'un côté de la bouffe et de l'autre côté des couches, des serviettes hygiéniques, des produits d'hygiène, des produits de nettoyage, voilà, qu'on a distribué autant que faire se peut. Malgré tout, notre mandat, ça restait toujours cette étude sur le Covid avec des questionnaires, alors avec des tests rapides qui étaient proposés aux gens, avec un résultat en quelques minutes, mais aussi tout un questionnaire sur leurs habitudes de vie, d'accès aux soins, comme on vient de le dire, d'accès à l'alimentation, d'accès à l'eau, d'accès à l'hébergement, etc., etc., aux travers sociaux. Voilà, et c'est des choses qui étaient déjà difficiles pré-pandémie et qui l'étaient encore plus en cette période de pandémie.
Ouais, c'était catastrophique même, non?
Exactement.
Ouais. Voilà. Mais du coup, comment est-ce que ces personnes-là accueillaient ta place d'enquêteur?
C'était en fait quelque chose d'assez spécial. C'est simplement dans le rapport humain. Finalement, c'est la façon d'aborder les gens. Enfin, pour moi, c'est l'aspect essentiel, quoi. Ce qui demande un peu de tact et surtout d'humanité, et puis d'essayer de tentative de compréhension de leur contexte de vie. Parce que c'est quand même compliqué de se mettre à leur place vu les histoires fragmentées, mouvementées et compliquées. Voilà, moi mon parcours m'avait déjà amené, et c'est aussi pour ça que j'ai été embauché sur l'étude, à bosser pour des ONG à l'étranger. Voilà, c'est un type d'emploi qui pose question, mais voilà, en fait, malgré tout, ces expériences dans différents pays m'ont quand même donné des billes pour, en termes d'interculturalité, si on veut appeler ça comme ça, m'ont donné des billes pour parler aux gens, mais ne serait-ce qu'au niveau de la langue, une facilitation au niveau de l'usage de l'anglais, en particulier je pense aux Nigérians. Voilà, mais avant tout en fait c'est une forme de relation humaine qui s'instaure et les gens acceptent ou pas nous introduire chez eux. Faut imaginer qu'il y a des types de lieux et de squats totalement différents. Toi et moi on s'était déplacés dans des tout petits collectifs à 2, 3, 4 étages. Faut imaginer des endroits où c'est des parkings avec des voitures, des camions, des caravanes et parfois aussi des barres HLM entières et immenses qui sont squattées par des facilement très vite des centaines de personnes.
Oui. Moi j'avais eu accès à un terrain pour la prise de son. Alors c'était au Casmajou. Mm-hmm. Il y avait les coraux. C'était les coraux ou le petit séminaire? Je confonds tout le temps. Là où il y avait les Nigérians.
On semble, on a dû se déplacer au parc Corot.
C'est ça. Et déjà pour y entrer, alors que je ne les connaissais pas, je suis rentrée par ton biais, qui toi est rentrée par le biais de Grace. C'est bien ça.
Tout à fait.
Ouais. Voilà. Mmh. Et Grace qui connaissait cette population parce qu'elle-même, elle est Nigériane.
Exactement.
Voilà. Et alors, donc, toi, tu es allé, je vais t'embêter hein, sur ta posture.
Allons-y.
Donc, tu étais un enquêteur, tu avais un objectif. Tu avais bien des relations humaines avec ces personnes-là, tu étais en relation, tu avais construit plus ou moins un rapport de confiance avec des personnes. Mmh. Et les objectifs que toi, tu visais dans ton enquête, est-ce que tu peux nous en dire plus ?
Dans un premier temps, c'était d'arriver à récupérer un certain nombre de personnes pour que finalement, créer cette cohorte qui a atteint un peu plus de 1200 personnes. Et l'idée, c'était quand même de récupérer un maximum de gens, de participants à l'étude. D'accord. Avec toutes des étapes successives. Et tout d'abord, une étape qui était en fait obtenir leur consentement, évidemment de façon informelle, puis formelle par la signature de papier. Donc on passait par cette première étape avant d'attaquer la phase de test proprement dit. Voilà, qui est une chose assez spéciale parce que finalement, on prélève une goutte de sang aux gens. Donc c'est quelque chose d'assez intrusif.
Ouais.
Avant de passer au questionnaire sur leurs habitudes de vie, comme on l'a dit tout à l'heure, en termes d'accès aux soins, l'alimentation, etc. etc.
D'accord. Et une fois que tu as rempli ces questionnaires-là, qu'est-ce que ça va entre les mains de qui? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous pouvez répondre? Parce que là, ça, on va sur la suite du cheminement, là.
Exactement. Non, mais après, je pense que ce qui est important de mentionner aussi, Mathieu, c'est que, en fait, l'étude, elle s'est faite en trois étapes. C'est-à-dire qu'on faisait donc des tests au M0, donc au niveau de l'inclusion des personnes. On les revoyait 3 mois après et on les a revus 6 mois après. Et en fait, Mathieu, ce qui était chouette, c'est que le fait que c'était la même personne qui retournait au même lieu avec les médiateurs sur des temps donc à 3 mois d'intervalle. Et aussi, mine de rien, c'était des lieux où il n'y avait aucune structure, aucune association qui allait, qui avait accès, quoi. Donc c'est vrai que Mathieu, toi, tu as dû répondre quand même à des demandes complètement, qui sortaient complètement de notre champ de la recherche. Mais c'est ça que moi, j'ai beaucoup apprécié dans cette étude, c'est qu'on n'était pas, borné à juste inclure les gens, les tester. C'est-à-dire qu'il y a des endroits où ils nous demandaient des couches pour les gamins, on demandait aux associations. Toi, tu as fait un super réseau avec le niveau associatif marseillais. On allait chercher des couches dans une asso, on allait chercher de la nourriture avec l'équipe de Coco Valten. Enfin, en fait, il a fallu se réinventer à chaque fois, par chaque lieu, par rapport à chaque demande, quoi. Et je pense que c'est ça aussi qui a fait notre acceptance, en tout cas dans les différents lieux, quoi.
Ouais, on n'y allait pas que pour faire des tests et répondre à des soins.
Oui.
Ouais. Mais ça remonte dans votre étude, dans les retours que vous avez faits
Ça remonte, oui, parce que quelque part, quand même, on a inclus plus de 1400 personnes. C'est l'une des plus grosses cohortes, quand même, mondiales auprès des précaires. Donc, c'est quand même pas rien.
En termes d'études, oui.
Et en plus, bon, après, si vous voulez, ce qui se passe, c'est que c'était très compliqué parce qu'avec les épisodes, donc confinement, reconfinement, les personnes bougeaient beaucoup. Donc, du coup, des fois, c'était très compliqué de les retrouver à 3 mois après, 6 mois après. Donc, on a eu des pertes. Je veux dire, on a eu des gens qu'on n'a pas retrouvés, parce que les gens bougeaient beaucoup également. Il y a eu beaucoup de gens qui sont restés coincés sur Marseille lors du premier confinement. Mais après, une fois qu'on a réouvert, ils ont pu rentrer chez eux. Donc, on a pu à chaque fois retrouver à peu près 750 personnes, à ce qu'on appelle à M3 et à M6. Et donc, une fois que toutes ces données étaient collectées, on était sur ce qu'on appelle un logiciel qui s'appelle REDCap. Et après, ce qui nous permettait, donc, avec donc, les chercheurs comme Émilie, Sandrine et Aurélie, c'était donc de sortir les données donc, de ce logiciel, dans ce qu'on appelle la base de données brutes, et de faire les analyses. Et du coup, on a pu sortir des analyses assez rapidement, parce que, comme Émilie disait tout à l'heure, le but, c'était quand même de faire du plaidoyer auprès des institutions. Parce qu'en général, les études de recherche, souvent les données, elles sortent un an et demi après. Nous, on voulait vraiment pouvoir les sortir à chaque intervention. Donc on a sorti les premières données en septembre 2020. Donc on a pu faire du plaidoyer parce que là, on a pu commencer à voir qu'il y avait un taux supérieure de séroprévalence chez les personnes précaires dans les centres d'hébergement d'urgence, du fait que ce soit des lieux collectifs où les gens ne pouvaient pas vraiment s'isoler. Et au fur et à mesure, à chaque fois qu'il y avait des informations clés, on pouvait justement contacter les institutions responsables ou faire du lobbying auprès des différentes structures, auprès des institutions.
D'accord. On va juste faire une pause musicale. On va revenir dans les studios de Radio Galère 88.4 dans l'émission Libre Débat. Et dans le retour de l'émission, on invitera Camille Alaria par téléphone. Je vais balancer le son. On va respirer de notre côté. A tout de suite, auditeurs, auditrices. Et je vais vous mettre un morceau de I Am, Ils ne savent pas.
Comme un G.I. dans la rizière, j'ai remonté les manches, ajusté la visière. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Tout ce qu'on a dû faire et ce qu'on a supporté, non. Ils ne savent pas. Comment pourraient-ils nous diriger? Ils ne savent pas. Tout ce qu'on a dû faire et ce qu'on a sacrifié, non. Ils ne savent pas. Mais ils se permettent de nous juger. Ils ne savent pas.
On se prend pas la tête, on nous l'apprend déjà. On nous sonde, on nous analyse comme des rats de laboratoire. Ils pensent avoir compris, mais ils vivent bien trop. Comme si l'oiseau pouvait se sentir comme un poisson dans l'eau élevée. Au repas fait de reste, au sandwich pain banane. À peine le 15 du mois, déjà le frigo en stress. Parfois en vacances, souvent pas de thunes. Parfois on travaille, mais souvent y en a plus. Bien sûr on fait la fête, on danse même à Noël. On rate jamais l'occasion de se rappeler que la vie est belle. Et pourtant, on voit nos mères suer pour un caddie plein. S'user les reins chaque jour pour le gîte et le pain. Tellement de chutes et de faux départs, levé tôt, couché tard. Un taf dur à gérer, lui c'est toujours aux abois. Au bout du compte, y en a qui sourient et d'autres se noient. C'est ce qui arrive quand on encaisse plus qu'on peut recevoir. Et malgré tout on rit, beaucoup plus qu'on ne le dit. On apprécie chaque seconde, celles-ci sont sans prix. Qui s'occupe donc de ce que l'on vit au lieu de qui on prie? À ce moment-là, on cessera de dire ouais.
Ils ne savent pas. Tout ce qu'on a dû faire et ce qu'on a supporté, non. Ils ne savent pas. Comment pourraient-ils nous diriger? Ils ne savent pas. Tout ce qu'on a dû faire et ce qu'on a sacrifié, non. Ils ne savent pas. Mais ils se permettent de nous juger. Ils ne savent pas.
Combien d'années à vivre côte à côte? Concours dans l'or, on se croise sans se dire bonjour. À pointer nos défauts réciproques, sous sa masque le bon. On regrette une époque et on vomit sur le monde. Non madame, je n'ai pas de lame prête à taillader. Dans mes poches, je ne fais que balader. Arpenter les trottoirs de nos villes, comptant nos péripéties. Ils n'ont jamais su la portée de nos petits récits. Le grand public c'est nous, ils n'ont pas vu venir. La rue crée plus sexy, la rue tire. Labellisée musique urbaine, marquée comme des bestiaux, enfermés dans un enclos. Non, ils ne savent pas que leur musique est rincée. Le réveil sera dur, on se devine les pincer. On a passé 15 ans à se faire insulter sur France 2, France 3. Conter l'histoire d'une France déchirée en deux. J'ai pris la route sur France 5, le monde est si beau. Le hip-hop est en haut, il est diffusé à minuit et demi sur France. L'ignorance peut-être, ou simple goût de merde, qui sait. Mais c'est bien la musique des Français d'outre-mer. À genoux pour une subvention. Tant pour le classique, ils font des lieux à 100 bâtons. On porte l'étendard de cette culture d'analphabète, qui tôt ou tard les dégagera tous de l'alpha jet.
Ils ne savent pas tout ce qu'on a dû faire et ce qu'on a supporté, non. Ils ne savent pas.
Ils ne savent pas.
Comment pourraient-ils nous diriger? Ils ne savent pas. Tout ce qu'on a dû faire et ce qu'on a sacrifié, non. Ils ne savent pas, mais ils se permettent de nous juger. Ils ne savent pas, ils ne savent pas, ils ne savent pas, ils ne nous connaissent pas. Ils ne savent pas tout ce qu'on a dû faire.
ça va pas. Non, non, non. Comment pourrait-il nous diriger?
Alors bonjour, nous sommes de nouveau sur Radio Galère 81.4 et nous avons en ligne Camille Alaria. Bonjour Camille, est-ce que tu nous entends? Alors moi je ne t'entends pas sur la ligne de la radio. Alors est-ce que là tu m'entends? Attends,
oui.
Toi tu nous entends? Est-ce qu'on t'entend?
Allô, bonjour.
Allô? Allô, tu m'entends?
Allô, bonjour, oui.
Parfait. Alors là, tu es en direct sur Radio Galère 88.4 dans l'émission Libre Débat, en direct de Marseille. Alors Camille Alaria, est-ce que tu peux te présenter, sachant que toi tu fais partie d'une des personnes qui a été sur l'étude Covid Homeless. Est-ce que tu peux nous faire une présentation de toi et de ta présence et de la raison pour laquelle tu as été dans ce projet, dans cette étude, excuse-moi.
Oui, d'accord. Eh bien, moi, je suis sociologue. Je travaille depuis plusieurs années sur les questions d'accès à l'hébergement et au logement à Marseille particulièrement. Et puis, ben là, je travaille donc en tant que sociologue au sein d'une équipe de recherche pluridisciplinaire qui était composée de médecins, de chercheurs en santé publique, de statisticiens, d'économistes. Et puis, dans ce projet, l'équipe, elle m'a confié l'étude qualitative de la perception du risque sanitaire lié à la Covid-19 chez les personnes qui vivent à la rue, qui vivent en squat, en bidonville ou en foyer d'hébergement. Et puis on s'est évidemment aussi intéressé au traitement politique en fait des populations sans logement à l'occasion du confinement, quoi.
Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce traitement politique? Parce que là, ça m'intéresse du coup.
D'accord. En fait, la première chose dans ce projet, ça a été de considérer qu'avec le confinement de la population générale, le logement devenait publiquement un déterminant social de santé. Ce qui peut paraître en fait une chose assez évidente pour un grand nombre de personnes, mais en fait pour un certain nombre de personnes qui sont en charge des politiques d'accès au logement, on en doute parfois. Et donc on se retrouve au mois de mars 2020, il faut absolument rester chez soi, il faut absolument se laver les mains 20 fois par jour. Par ailleurs, les rues sont pleines de gens qui n'ont pas ces ressources de protection sanitaire là. Donc en fait, notre question, ça a été comment les ressources de protection sont accessibles ou non aux populations sans logement dans la deuxième ou troisième ville de France, quoi.
D'accord. Et du coup, est-ce que ça a été ton paradigme de recherche dans cette étude Covid Homeless?
Ça a été mes questions de recherche principales, en fait.
D'accord. Et quand tu dis étude qualitative, j'aimerais bien que tu précises par rapport aux auditeurs et auditrices, quand on dit étude qualitative, c'est vraiment faire parler les gens, alors que quantitatif, là, on est dans les chiffres et dans les statistiques. D'accord. Du coup, toi, tu as vraiment fait un travail d'entretien et tu as rencontré divers acteurs et actrices du terrain. On est bien d'accord?
Oui, on est bien d'accord. C'est ça la recherche qualitative. C'est d'aller recueillir... les expériences, les perceptions des gens sur du temps plutôt long, d'aller répéter en fait des recueils de données auprès d'un maximum de personnes, en fait, jusqu'à saturer un peu nos données, c'est-à-dire jusqu'à ce que nous, en tant que chercheurs, on tourne un peu autour d'un pot bien précis, quoi.
Ouais.
Donc là, c'est un projet de recherche qui a été imaginé dans les premiers jours du confinement, en fait, au mois de mars. Moi, j'ai commencé mes premiers terrains au début du mois de mai, le temps que tout se mette en place. Et puis au final, j'ai conduit 4 terrains successifs. D'abord auprès des personnes à la rue, en squat, en bidonville et en centre d'hébergement. Sur les questions de leur perception du risque sanitaire. Ensuite, un autre terrain auprès des travailleurs sociaux sur la façon dont les mises à l'abri avaient été menées durant le confinement.
Mmh.
Un troisième terrain auprès des responsables politiques qui sont en charge du logement et de l'hébergement à Marseille pour les personnes à la rue. Et puis un dernier terrain sur les fins de mise à l'abri, les fins de prise en charge, les fins de mise à l'abri des populations sans logement, c'est-à-dire que on a mis à l'abri des gens pas tout le monde d'ailleurs, mais un certain nombre de personnes à l'abri entre guillemets dans les hôtels, principalement dans les hôtels, mais pas que. Et puis au final, il y a quelques mois de ça, ces mises à l'abri ont pris fin et que s'est-il passé pour eux, quoi.
D'accord.
Donc, en fait, un travail de terrain qui s'étend à peu près sur une année, sachant que c'est un domaine de recherche sur lequel moi je travaille depuis plus de 4 ans, donc que je commence un peu à bien connaître. Mais bon. Voilà pour le côté terrain, quoi.
Alors, du coup, là, sur les quatre aspects que tu viens de nous citer, ça m'intéresserait de savoir et de nous faire un retour. Est-ce que tu peux nous faire un retour sur la perception que ce public sans abri avait des risques sanitaires? Qu'est-ce qui en ressort de ton travail? De ce qu'ils disent, en fait.
Rapidement, ce qui est sorti, c'est que le rapport à la santé, le rapport aux risques sanitaires, mais en général, au-delà, en fait, de l'épisode lié à la Covid, vraiment, le risque sanitaire en général, c'est absolument une préoccupation. Enfin, de ce qui est sorti, voilà, de ce terrain-là, c'est pas une vérité en soi, évidemment, c'est le fruit d'un travail de recherche minutieux, c'est tout, quoi, j'ai envie de dire. Donc, en tout cas, le rapport à la santé en général, aux risques sanitaires en général, c'est une préoccupation absolument constante des personnes sans logement. Voilà, en gros, vivre dans des espaces qui sont pas prévus pour l'habitation, ça nécessite une multitude de pratiques quotidiennes pour conserver au mieux un état de santé minimum. En gros, l'idée, c'est de savoir se protéger dans des espaces insalubres, et voilà, c'est des gens qui sont absolument qui le font au mieux, quoi, au plus proche de ce qu'ils peuvent faire. Et là, en fait, la question principale finalement qui se pose, c'est la question de l'accès aux ressources fondamentales, et à commencer par l'accessibilité à l'eau potable en ville, en fait. Oui. Or, Marseille et la métropole, on peut dire qu'elles sont assez frileuses en ce qui concerne la distribution des ressources en eau. Voilà. Après, un deuxième élément de recherche qu'on peut évoquer, ça concerne donc plus le traitement politique. En gros, il s'agit de la rhétorique de l'urgence, finalement, qui est systématiquement utilisée pour penser des questions dont on a pu éprouver collectivement à quel point elles étaient centrales, hein, donc typiquement l'accès au logement, quoi. Oui. Parce qu'en fait, rapidement, quand le confinement de la population générale a été décrété, la consigne du gouvernement, ça a été de mettre tout le monde à l'abri, et en précisant d'ailleurs quel que soit le statut des gens. Donc ça, juste pour la parenthèse, c'est censé être la règle, mais c'est pas forcément la pratique, hein, du moins au niveau local. Et en fait, à ce moment-là, on a bien pu se rendre compte que personne n'était en mesure de dire combien de personnes étaient à la rue, quels étaient leurs besoins. On a confiné dans des chambres d'hôtel les familles avec plusieurs enfants, et puis on voyait dans les rues les personnes qui d'ordinaire ne font pas appel aux services sociaux institutionnels, et qui passent sous les radars des compteurs institutionnels, on va dire, typiquement par exemple celles qui sont hébergées chez des tiers. Voilà. Et donc à cette époque-là, des pouvoirs publics et puis leurs délégataires qui ont été, il m'a semblé, débordés par leur mission, et des organisations humanitaires qui sont arrivées relativement massivement, en fait, aux côtés de la ville et de l'État, des ONG qui, elles, ont l'expérience, en fait, des situations limites, finalement. Et seulement, ça raconte un glissement particulier qui me semble intéressant d'évoquer, le glissement du politique vers l'humanitaire.
À Marseille.
À Marseille, pour un étude, ouais, effectivement. Enfin, moi, ouais, voilà, c'est ce que je repère, en tout cas, comme fait social, quoi. C'est Didier Fassin qui en parle très bien dans un de ses derniers bouquins qui s'appelle La raison humanitaire, qui pointe en fait le fait central que la présence croissante des ONG, elle réduit l'expression des populations au prisme de la souffrance et non plus au prisme de leurs droits, en fait. Et c'est quelque chose, je pense, qui nécessite d'être largement considéré, parce que ça en dit long finalement sur l'état de notre organisation sociale collective, quoi. Voilà, voilà en quelques mots des petits résultats que je peux voilà.
Est-ce que tu peux nous dire, enfin, ce glissement, il est dû à quoi? Si, enfin, je veux dire, l'État se retire et il se passe autre chose, quoi.
Oui, en fait, c'est très vaste et c'est assez complexe. J'avoue, c'est un peu une colle en quelques secondes comme ça, à brûle pour point. Mais ça en dit long. Enfin, l'État social se retire. Ça, on n'est pas en train de l'inventer maintenant. Pourtant, les besoins sociaux sont manifestement toujours là, et les inégalités sociales s'accroissent. Enfin bref, voilà, ça c'est des choses qu'on sait bien maintenant. Donc en fait, les besoins, ils existent. Si c'est pas l'État qui le fait, qui d'autre? Effectivement, c'est la sphère privé, tout simplement, et les ONG font partie de ces acteurs-là qui prennent en charge en fait ce que l'État n'assure plus. Et simplement, ces acteurs-là, ils marchent sur des donations privées, ils marchent pas sur des impôts qui sont le collectif, on ne sait pas ce qu'on paye quand on paye l'impôt, quoi. C'est en ça qu'il est important, d'ailleurs, quoi. Donc voilà, il est dû à quoi ? Il est dû au retrait de l'État social, voilà, ça c'est une chose, et puis à beaucoup d'autres facteurs qu'il faudrait
développer.
Voilà, qu'il faudrait développer longtemps, mais par contre, voilà, je peux indiquer le bouquin de Didier Fassin qui en parle bien, et puis voilà.
Donc la raison humanitaire.
La biographie aussi là-dessus, quoi. Ouais, la raison humanitaire, effectivement.
Raison humanitaire de Didier Fassin. Ok. Ouais. Et alors, on ne va pas te retenir longtemps, on va te prendre encore 2 minutes de ton temps. Mmh. Ça sature, pardon. Est-ce que tu peux nous dire ce qui ressort, ce qui est frappant, ce qui est le plus frappant pour toi suite à cette étude que je recite, étude Covid Homeless. Mmh. Est-ce que tu peux nous sortir quelles ont été les limites et tes critiques par rapport à la situation analysée?
Eh ben, très sincèrement, ce à quoi je suis le plus sensible, c'est exactement ce dont on vient de parler.
D'accord.
C'est parce que en fait ça met direct. Enfin, c'est pas que des grandes idées sur l'État social, sur caritatif versus solidarité. C'est pas que ça. C'est aussi est-ce que tout le monde peut avoir accès à l'eau dans une ville? Sur un territoire qui est riche en plus, je veux dire, un quart de la population vit sous le seuil de pauvreté à Marseille, mais on est dans un pays riche. Donc, dans quelle mesure est-ce que l'eau est accessible? Dans quelle mesure est-ce que on vit des crises alimentaires en 2020 dans les grandes villes de France? Moi, ce que je retiens, c'est c'est cette intervention humanitaire là, bon, qui n'est pas due tout à fait à la Covid-19, quoi. Qui, par exemple, les effondrements de la rue d'Aubagne, une partie des militants a impliqué, en fait, a décidé d'impliquer, et puis les ONG se sont elles-mêmes impliquées. Donc c'est pas dû spécifiquement à cet épisode là. Mais voilà, moi, ce à quoi j'ai été le plus sensible, c'est ça.
D'accord. D'accord, après, moi, je tiens à préciser qu'il n'y a pas eu que les ONG qui sont impliquées. Il y a aussi les monsieur et madame de tout Marseille, hein, qui étaient dans une solidarité à tout va.
Absolument, oui, tout à fait. Il y a eu un... Mais ça, c'est, on est plus... on est dans un élan de solidarité sur une commune. C'est encore une... C'est encore une autre considération que de déplacer des mammouths en fait de l'humanitaire, quoi.
C'est ça.
Et effectivement, il y a eu beaucoup de solidarité entre les gens
et des initiatives comme l'après-M. Bon, je te remercie. On va retourner. On va essayer de réagir à ton propos. Je te remercie de nous avoir consacré ce temps-là, Camille.
Avec grand plaisir.
Allez, bonne continuation à toi.
Merci à vous aussi. Au revoir.
Au revoir. Alors, Mathieu, Marine et même Sophie, notre photographe de l'expo Covid Homeless, est-ce que vous avez des choses à dire par rapport à ce que vient de dire Camille Alaria? Est-ce qu'il y a des réactions de votre côté?
Moi, je pense qu'elle a raison, Camille. Parce que si vous voulez, sur le volet qualitatif, il y avait donc Camille, la sociologue, qui était plutôt sur la partie à interviewer, donc... les personnes vivant à la rue. Et puis on avait aussi Olivia Nevissa qui s'est plus penchée sur la partie donc des travailleurs médico-sociaux du terrain. Et c'est vrai que ce qui ressort, elle, de ces entretiens, c'est exactement ça, c'est-à-dire une humanitarisation de la réponse auprès des associations, des diverses associations. Mais parce que aussi le problème, c'est que c'était les seuls à réagir. Enfin, ça a été un peu les premiers à réagir. Alors, je ne parle pas forcément des gros mastodontes humanitaires telles que, par exemple, Action contre la faim, qui est arrivée à Marseille justement pour faire la distribution alimentaire.
Et qui est venue après.
Qui est venue après. Et où Médecins sans frontières aussi, qui est venu faire du dépistage, parce qu'au début, il n'y avait pas les institutions n'avaient pas cette capacité-là.
Ouais, c'est
en
ça.
Tout cas, d'aller dans les endroits un petit peu à l'extérieur des centres-villes où les gens n'avaient pas forcément accès. Donc c'est vrai qu'on a vu cette humanitarisation et également, ce qui est quand même assez incroyable, c'est que, on le voit même encore aujourd'hui, c'est qu'il y a un burn-out des équipes de ces structures parce qu'elles ont dû faire face à, justement, à cette pandémie, quoi. Et au début, elles étaient seules. Et nous, je vois au niveau de Covid Homeless, c'était quand même nous qui faisions beaucoup de la formation auprès des différentes structures, des centres d'hébergement, parce que ça changeait en permanence et que c'était très compliqué de comprendre quelles mesures il fallait mettre en place aujourd'hui, parce que la veille, c'était pas du tout les mêmes. Donc je pense qu'il y a eu quand même un manque d'accompagnement de ces structures-là. Elles se sont retrouvées toutes seules, et elles ont dû faire face à une demande énorme qui ne correspondait pas forcément à leur mandat initial. Donc oui, moi je suis assez...
Ça c'était le constat de toute façon qui en ressortait de manière grave, quoi. En tout cas je peux dire. Et par exemple au niveau alimentaire, bon... Les institutions ou la structure associative, on peut y répondre, mais pendant le confinement, il y a eu des gens, il y a eu des collectifs qui se sont mis en place, il y a eu la naissance de l'après-M. Je veux dire, à un moment donné, les gens, ils crèvent de faim, il faut vite se mettre au travail et essayer de récolter ce qu'on peut et essayer de ne pas laisser les gens comme ça. Il y a aussi eu cette question de... Alors, il n'y a pas que ça, il y a aussi la question du logement. Je veux dire, plein de gens ont réagi aussi.
Oui, et d'ailleurs sur le logement, je tiens peut-être à citer un exemple qui était quand même hyper intéressant, notamment d'un collectif. Donc il y avait Nouvel Ob, il y avait Just, il y avait Yes We Camp. Parce que ce que disait Camille, c'est vrai. C'est-à-dire qu'ils ont ouvert énormément de chambres d'hôtel, mais les chambres d'hôtel, elles n'étaient pas adaptées. On ne pouvait pas faire la cuisine. On voyait des familles avec plein de gamins qui étaient logés dans un hôtel, alors que les gamins, par exemple, normalement allaient à une école qui était à l'autre bout de la ville. Enfin,
ils pouvaient manger à la cantine.
Ils pouvaient manger, voilà. Donc du coup, il n'y a pas eu vraiment de... En fait, ça n'a pas été des solutions individualisées. Il y a eu des hôtels, quand même, qui étaient, au niveau de la qualité des hébergements, qui étaient complètement... qui allaient d'un hôtel normal, on va dire, avec...
C'était décalé, quoi.
C'était complètement décalé.
Ouais.
Et justement, je pense qu'il y a eu un collectif, à un moment, qui a pris le Village Club Soleil. Donc, c'était vraiment sur la fin du confinement. Et qui a décidé, donc, d'héberger plus de 150 personnes dans ce lieu... Avec des profils complètement différents, des gens, des hommes seuls, des familles, des communautés différentes, avec un accompagnement de ces différentes structures. Et ça fonctionnait. Ça fonctionnait.
Parce qu'ils étaient autonomes.
Parce qu'ils avaient des activités.
Et aussi parce qu'ils pouvaient prendre soin d'eux.
Exactement. Parce qu'une personne qui est dans un hôtel toute la journée pendant des mois et des mois, avec aucun lien social, aucun accompagnement, ça a créé des problématiques psy très très fortes.
D'accord. Alors là, je commence à perdre mes idées, mais bref, j'avais une question, je l'ai oubliée. Enfin, moi, j'aimerais revenir. Vas-y, Mathieu, tu as une réaction.
Ouais, non, j'aurais pu revenir sur ce que disait Camille. Humanitarisation, ok, et solidarité locale, qu'on continue d'exister. C'est insisté aussi là-dessus, Yéter. Nous, ce qu'on a vu, c'est beaucoup dans les quartiers, des gens qui ont fait des récups de bouffe, des distributions, même sans organisation associative, de quoi que ce soit, juste par volonté de filer un coup de main aux voisins de palier ou du bâtiment d'à côté, quoi. Nous, c'est vrai qu'on a récupéré des choses auprès de grosses organisations, mais très vite, ça a été des petits restos, ça a été du bouche à oreille, des choses comme ça. Mais ce qui a été constaté aussi à Marseille, un peu par tout le monde, c'est qu'il y avait quand même une concentration de ces initiatives en centre-ville, il y a des quartiers beaucoup plus éloignés où il y avait des sortes de trous dans la raquette, en fait, des gens qui n'étaient vraiment pas du tout touchés. Et des fois, dans ces quartiers, il pouvait y avoir des conflits intracommunautaires ou des conflits entre, disons, locataires et squatteurs. Et du coup, là, les petites solidarités du quotidien pouvaient vraiment beaucoup moins bien marcher.
Ouais, d'accord.
Et on constatait vraiment une difficulté d'accès à l'eau, à la bouffe, etc.
Et c'est là que toi, tu étais sur place?
Alors nous, on est allé sur place, mais ça reste, on travaillait sur cette étude, ça a été des petits gestes, des fois de façon régulière. Comme tu disais, on revenait à M0, puis 3 mois après, puis 6 mois après, et plein de fois intermédiaires entre les deux. Mais ça restait quelque chose de très light, en fait. Nous, ça nous permettait de faire des signalements auprès d'autres, qui ont des fois permis de combler des trous, et puis des fois, juste de constater des vides immenses, quoi. Voilà.
Ok. En plein dans la misère, quoi.
Pardon ?
En plein dans la misère.
C'est ça.
Ouais.
C'est ça.
Alors, toi, Mathieu, tu avais un rôle spécifique par rapport au travail de photographie et de la prise de son, de Sophie Gisclard pour la photo et de moi par rapport à la prise de son. On t'a suivi certaines fois sur le terrain. Et cette idée de te suivre, c'était pour aboutir à une expo quand même. Et cette expo, je veux dire, nous ne sommes pas des artistes, nous sommes là pour être un intermédiaire, des intermédiaires pour essayer de rendre compte de ce qui se passe dans le quotidien de ces gens-là. Et dans cette expo-là qui va avoir lieu à partir de ce 2 octobre à la Friche Belle de Mai dans l'espace Petit-Rama, il va y avoir donc un espace avec 4 thématiques. Et on a visé ces 4 thématiques pour des raisons bien précises. Vous allez préciser pourquoi ces 4 thématiques, mais je vais juste les nommer. Alors, il y a la question de l'autodéfense alimentaire, une des thématiques de l'expo. Il y a une autre thématique dans l'expo qui est la débrouille. Comment tu fais quand tu es pauvre pour te débrouiller et t'en sortir? Le troisième thème, c'est le logement. Et le quatrième, c'est le travail social. Alors, pourquoi déjà avoir ciblé Mathieu, Marine? Pourquoi nous avoir invités à développer ces 4 thématiques-là, Sophie, Gisclard et moi-même?
Bon, déjà l'hébergement, c'est parce que, comme disait Camille, et puis comme on a dit un petit peu au début, c'est-à-dire que nous, nos populations cibles, c'était donc les personnes vivant à la rue, c'était les personnes dans les hébergements d'urgence et en squat bidonville. Donc en fait, ça nous a permis, et en plus, c'est vrai que pendant le confinement, comme disait Camille, il y a eu une augmentation des mises à l'abri dans les hôtels. Et nous, on allait à chaque fois sur place. Donc ça nous a permis de voir en fait où les gens étaient hébergés. Et l'hébergement surtout est une composante en fait qui augmente énormément la séroprévalence chez les personnes à la rue. Donc pour nous, c'était important de parler de cette thématique-là, parce que suivant où les gens étaient hébergés, en fait, leurs besoins n'étaient pas les mêmes, leur risque sanitaire n'était pas le même. Donc voilà. Donc l'hébergement, déjà, c'était un point très important. Je te laisserai parler de précarité des bouilles, Mathieu. Mais sur l'auto-alimentaire, je pense à Sophie, je te regarde Sophie, mais parce que c'est vrai que toi, tu avais pas mal bossé à Noga. Et en fait, c'était compliqué des fois de retrouver les gens. Et les distributions alimentaires pouvaient être des lieux pour nous, pour retrouver les gens. Mais je te laisse peut-être dire 2 mots, Sophie.
Oui, donc bonjour, moi je suis Sophie. Donc je suis la personne qui a suivi un peu toute l'étude au niveau photographique sur quasiment 1 an. Effectivement, avant de travailler avec vous sur l'étude, moi j'ai bossé pendant la période de confinement à Noga en tant que bénévole. Effectivement, comme on disait tout à l'heure, il y a la plupart des personnes qui venaient faire du bénévolat dans ce genre de structure d'un certain âge ou un peu fragile de santé qui du coup n'ont pas pu revenir à ces moments-là. Et il a fallu un peu faire tourner les équipes, changer... trouver de nouvelles personnes qui puissent être disponibles pour ça. Et moi, ça a été un peu le début de l'histoire de connexion avec justement les personnes à la rue, voir comment on pouvait les aider. Et évidemment, la nourriture est devenue une des premières problématiques, puisque c'est un peu le grand serpent qui se mord la queue. Mais étant donné qu'ils ne pouvaient plus pour la précarité des brouilles, par exemple, aller faire les poubelles, revendre aux puces ce qu'ils avaient trouvé, trouver des petits cistus parce que tout était en arrêt sur Marseille et que plus rien n'existait à ce niveau-là. Du coup, plus aucun argent et plus quoi que ce soit pour arriver ne serait-ce qu'à se nourrir. Donc, il a fallu répondre à ces urgences-là. Donc, ça a vraiment été... évident de devoir parler de ce thème et de devoir le mettre en lumière un petit peu.
Ces quatre thèmes qui émergent, et aussi ouais. Le thème des travailleurs qui étaient en souffrance et des travailleuses qui étaient en souffrance pendant cette période de confinement et après, pendant toute la pandémie en fait.
Ouais. Et encore maintenant, j'ai envie de dire. Et encore maintenant. Parce
qu'il y a eu des expérimentations aussi. Il y a eu qui étaient possibles, qui ne l'étaient pas avant. Et c'est ce qui ressort, je vous ai précise, chers auditeurs, auditrices, c'est ce qui va ressortir. Lorsque vous irez faire un tour à l'expo Covid Homeless à la Friche, vous verrez donc ces photos qui parlent de ces quatre thématiques et des prises de son qui donnent à entendre ce que les gens ont à dire dans leur expérience pendant le confinement. Et c'est très intéressant les retours qu'ils en font de leur expérience. Il y a toute cette souffrance, il y a toute cette expérimentation et puis toute cette solidarité qui ressort quand même. Alors, je vous ai coupé, mais continue, Sophie, est-ce que tu peux me dire
Du coup, moi, je pensais aux travailleurs sociaux et à quelque chose dont je me souviens qui m'avait marqué, c'est à Forbin, par exemple.
Forbin, tu précises quand même. Forbin, qui est un centre d'hébergement d'urgence.
Voilà.
Et 215.
Au moment donc, du confinement, les personnes qui travaillaient là-bas ont décidé de rester tout le temps du confinement. Dans le lieu, dans la structure dans laquelle ils travaillaient.
Donc, alors ça veut dire quoi?
Ça veut dire couper les familles, ça veut dire que pendant un mois, ils restaient sur place.
Alors que ce n'était pas possible avant. Avant, c'était de 7h du soir ou de je ne sais pas quelle heure, la nuit en fait.
Il y a eu deux choses en fait. Comme dit Sophie, en fait, il y a eu une prolongation. Parce que c'est vrai que normalement, les centres d'hébergement d'urgence, à 8h du matin, les gens doivent sortir et ils peuvent re-rentrer qu'à partir de 17h. Mais là, je pense que ce qu'elle mentionne, c'est plutôt que les travailleurs se sont restés dans le centre d'hébergement d'urgence pendant tout le confinement pour éviter, si vous voulez, de se contaminer à l'extérieur et de contaminer leurs hébergés. Parce que c'est l'un des plus gros centres d'hébergement d'urgence sur Marseille. Et d'ailleurs, je leur dis merci parce qu'ils nous ont ouvert leurs portes de façon très accueillante.
D'accord. Bah ça, par exemple, ça n'apparaît pas dans mes sons, mais ça apparaît dans ta photographie.
Oui, il y a eu des rencontres vraiment incroyables. Enfin, moi, je ne sais pas, on en parle aussi après, mais...
On en parle maintenant.
On en parle de suite. Ouais. Les rencontres qu'il y a pu y avoir avec les personnes et la façon dont ils ont vécu les choses. Donc, moi, que j'ai retranscrit en image et toi, à travers les sons. Mais je me souviens d'une personne, une femme à la rue depuis plusieurs années qui vient de Paris, qui était à Marseille à ce moment-là et qui disait qu'elle avait passé 4 jours dans la rue au début du confinement, sans savoir ce qui se passait, en voyant que les rues étaient désertes, mais n'ayant ni la télé, ni la radio, et aucun contact avec les médias, ne comprenait pas pourquoi tout Marseille avait déserté.
Ah ouais.
Et du coup, il lui a fallu la rencontre avec une personne qui avait pris le temps de lui parler pour comprendre ce qui se passait, qu'il y avait une pandémie. Voilà. Et suite à ça, elle a été hébergée dans un hôtel, les choses ont été un peu prises en charge, mais c'est voir aussi un peu le choc des personnes qui n'ont pas forcément accès à la télé, à la radio, enfin, ou qui
à l'information,
qui sont très loin de ça, qui sont dans un quotidien qui est complètement différent, qui est vraiment tellement sur le fil et tellement compliqué déjà, et qui d'un coup tout se casse la figure, et voir comment ils arrivent à reprendre la vie et les choses en main, et comment il y a une aide ou pas. Effectivement, tu disais, il y a des vides hallucinants sur plein de choses.
Parlons-en de ta photographie, de ton travail de photographie. Alors, je veux dire, comment est-ce que tu as essayé de faire paraître par l'image ces questions-là, en fait ? C'était comment est-ce que tu as abordé
Alors, moi, je suis venue un peu comme une petite souris, parce qu'effectivement, sans les travailleurs pairs, sans les gens qui bossaient sur l'étude, effectivement, tous ces lieux-là, c'est des endroits dans lesquels moi, je suis passée, habitant à Marseille depuis quelques années, plusieurs fois sans savoir même ce qui se passait derrière ces murs-là. Les grands squats comme Casmajou, enfin, ou Corot, c'est des endroits où on ne va jamais. Et, enfin, c'est vraiment invisible. Et du coup, la façon d'y arriver, c'est rester en observateur et essayer de poser des questions, de voir comment ça se passe avec les médiateurs qui sont là. Et après, au fur et à mesure, essayer d'accéder, les rencontrer, parler avec eux et mettre en lumière un peu tout ce qui se passe dans ces endroits sont
mais, pas mais quand même, à un moment donné, il faut établir une relation de confiance pour être pris en photo. Alors, comment tu as construit cette relation de confiance?
Effectivement, il y a des endroits dans lesquels on est revenu plusieurs fois. Moi, ça a vraiment été... alors, je n'ai absolument pas travaillé au même rythme que toutes les personnes qui étaient sur l'étude. Mais c'était revenir régulièrement. Effectivement, il y avait des soirs où il y avait l'appareil photo, mais il y avait aussi des soirs où s'il y avait des maraudes, c'était suivre les équipes, être avec eux, être à la rencontre des gens, et puis discuter, savoir prendre un temps pour pas prendre de photos,
vraiment et être établir, juste là et établir rencontrer une vraie les personnes. Relation, quoi.
Voilà, c'est ça, c'est une comme rencontre. Ça que ça se fait. Ouais. Effectivement, et en même temps, c'est tellement hallucinant que... Enfin, moi personnellement j'ai appris, ça m'a beaucoup touchée, j'ai appris énormément de choses et après la photo est un médium pour parler de tout ça parce que c'est une évidence qu'il faut en parler
et puis l'idée c'était quand même de faire des traces, de laisser des traces.
Évidemment, c'est ça.
Parce que les photos c'est laisser des traces quand même.
Évidemment.
On est d'accord.
Et le son aussi. Et
le son aussi, oui. Mm-hmm. Je crois que Marine voulait réagir à quelque chose, hein. Non.
Non, mais c'est Sophie aussi, ce qui était chouette, c'est que t'y allais à n'importe quelle heure, le samedi, le dimanche, t'étais invitée, et c'est ce qui a fait aussi cette relation que je trouvais très chouette. Et puis tu leur as ramené les photos aussi, et ça les a vachement marquées, quoi. Que tu leur ramènes important. Les photos que t'avais prises de leur lieu, et du coup, je trouve cette expo, c'est un bon... C'est un bon retour aussi. Puis du coup, vous allez voir, pendant durant toute la durée de l'exposition, on a invité beaucoup de gens et beaucoup de personnes dans les lieux qu'on a photographiés. Quoi.
Ouais. Là, on entre dans le quotidien des personnes, quoi. Ouais. D'une certaine manière, en tout cas. Ouais. Alors, donc, dans cette expo, je rappelle qu'il y a lieu du 2 octobre au 12 octobre. C'est 12 octobre, hein, à la Friche Belle de Mai, dans la salle du Petit Rama. C'est au deuxième étage de la Friche Belle de Mai, en prenant les escaliers rouges. Donc, à partir de ce samedi, vous pouvez avoir accès à l'expo de manière gratuite, puisque c'est de 15h à 19h. Et vous pouvez aller voir donc les photos de Sophie Gisclard, écouter des sons. Il y a 4 bornes sonores sur les 4 thématiques qu'on a citées tout à l'heure, que je peux répéter, hein. La question de la débrouille pendant le confinement quand on est sans abri, qu'est-ce que ça veut dire? La question du logement quand on est aussi sans abri, qu'est-ce que ça veut dire? Le travail social, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Et puis il y a l'autodéfense alimentaire. Et après, donc il y a l'aspect photo et l'aspect sonore, mais il y a aussi à un moment donné des affichages pour rendre... les analyses, donner des retours sur les analyses de l'étude qui me semblent, enfin moi je veux le découvrir, vont être percutants j'imagine et puis intéressants, non?
Exactement. En fait, cette expo, c'est aussi une façon de dire merci à toutes les structures qui nous ont accueillis, qui nous ont aidés à avoir accès à ces personnes-là. Et je trouvais que c'était sympa de le faire plutôt de façon officielle, institutionnelle, dans un bureau. De le faire justement durant cette exposition. Donc en fait, vous allez voir la partie photo et prise de son, et puis il y aura également les panneaux avec la première restitution des résultats. Et justement, on pourra en discuter, parce que durant toutes les sessions d'ouverture de l'expo, il y aura justement toute l'équipe de COVID, enfin à chaque fois des personnes de l'équipe de COVID Homeless qui seront là pour vous expliquer et vous accompagner justement sur les différents résultats qui sortent, quoi. Notamment quantitatifs, mais qualitatifs également des différents sociologues.
Oui, je pense que c'est important. Oui. Et je pense que c'est aussi important que les responsables viennent sur place et entendent, parce que l'expo, c'est aussi exprimer des choses qui viennent d'en bas, quoi. Oui. Parce que là, on donne la parole d'une certaine manière à ces personnes-là, pas dans les studios de Radio Galère, je suis désolée, mais en tout cas dans l'expo, voilà. Et oui, Mathieu.
Ouais, non, mais j'y pensais il y a 2 minutes là. Effectivement, ça aurait été intéressant d'avoir des gens issus des squats ou qui sont passés par les hébergements d'urgence, etc.
Moi, je pensais à Driss. On va écouter un morceau après.
Ouais.
On n'y a pas réfléchi. Ça s'est fait dans l'urgence, cette émission. Je suis désolée.
En tout cas, ils seront présents lors de l'exposition.
C'est ça, ils seront présents, ouais. Et vous pouvez les rencontrer. Ça, c'est génial.
C'est inévitable, parce que je me dis qu'il y a des gens qui doivent se poser la question à l'écoute. Et on parle du Covid Homeless, l'étude sur laquelle on a bossé. Et évidemment, on imagine bien que dans cette période-là de précarité amplifiée, Vous faites notamment des économies, du travail au black qui s'arrête, etc. Les gens ont plus de ressources, donc on imagine bien que le Covid, des fois, c'est vraiment loin d'être la première des préoccupations. Et voilà, il fallait dealer avec ça. Et puis.
Et d'où le fait de ces quatre thématiques, d'ailleurs. T'as raison, Mathieu.
Ben, c'est ce qui ressort.
Ces quatre thématiques, elles sont sorties aussi parce que le Covid, c'était pas du tout leur priorité. T'as raison de le refaire.
D'ailleurs, dans une de mes prises de son, lorsque je parle de la thématique sur la débrouille, je rencontre cette famille dont, rappelle-moi le nom, Mathieu.
Alors, tu me poses une colle. C'est la famille qui a quitté Marseille depuis, d'ailleurs, qui est repartie dans le nord de la France avec ses cinq gamins, là.
Alors, c'était les amis de Svetlana, ouais. Ça me reviendra. Je réalisais peut-être pas cette ampleur-là, mais en tout cas, là, à Bougainville, quand il y a le marché aux puces, ce qu'il faut savoir, c'est que les personnes qui n'ont pas de papier, qui n'ont pas de travail, qui n'ont aucune reconnaissance et visibilité administrative, développent depuis des années une débrouille. C'est des personnes qui, par exemple, vont aller farfouiller dans les poubelles, trouver des trésors, parce que c'est des trésors des fois, le vendent au marché aux puces et ça leur fait un salaire mensuel, faut dire ce qui est, d'à peu près entre 600 et 800 euros. Moi, c'est ce que j'avais compris. Arrive le confinement, plus de revenus, plus rien, plus de possibilité de sortir, de faire les poubelles, plus de possibilité de vendre, plus de possibilité d'avoir de l'argent et donc plus de possibilité de se nourrir. Et cette famille-là donc me disait que comment on fait ? Comment on fait. Et vous écouterez donc cette partie. Ça m'avait touché parce que je me rendais pas compte à quel point ces ventes au marché aux puces étaient une question de survie pour certaines personnes et certains groupes de personnes en fait. Et que dans la débrouille, le confinement a tout cassé.
Oui, puis t'as raison de dire ça, parce que c'est vrai que tous les gens qui étaient un petit peu sur des économies, on va dire, parallèles, c'est-à-dire qui n'étaient pas officielles, on va dire, se sont retrouvés exclus de leur logement, des amis, parce que justement, avec la crise sanitaire, les gens avaient peur, et du coup... Donc nous, on a eu beaucoup de nouveaux précaires, ou en tout cas de nouvelles personnes à la rue, et qui n'avaient pas justement ces... un petit peu ses ressources et ses connaissances d'où aller pour demander à manger, pour s'héberger. Donc c'est vrai qu'il y a eu une recrudescence de nouveaux précaires sur Marseille. Ouais.
Tu veux réagir, Mathieu ?
Plein de choses qui me passent par la tête. Je repensais à cette histoire de marché, le fait que vous êtes allé faire de la prise de soins et toi, Yéter, et les photos Sophie. Là, un jour, on a retrouvé les gens qu'on avait côtoyés à 5h30, 6h du mat pour aller voir aussi la vie du marché, quoi. Faire un peu plus, enfin suivre un peu les parcours, notamment leurs ressources économiques. Et juste un truc, c'est que moi j'étais hyper surpris de l'acceptation des gens au niveau de la photo et du son. Bon, évidemment, c'est vos feelings et votre expérience là-dedans, mais c'est aussi que je pense des gens qui n'ont jamais la parole, franchement nulle part, et c'était vraiment une occasion aussi d'apporter un témoignage. Et finalement, les gens ont plein de choses à dire, quoi. Et j'existe.
Ouais, t'as raison, pour une fois, on leur donnait la parole et on...
Ouais. Ouais. Moi, je pense que ça avait... Enfin, moi, le ressenti que j'avais dans la relation à ces personnes-là, c'est... déjà, le fait de dire haut et fort qu'on les entende. Quand j'étais allée au squat Corolle avec les Nigérians, il y avait donc une personne qui exprimait haut et fort et qui voulait se faire entendre devant mon micro et qui disait ce qu'il avait à dire. Et ça apparaît d'ailleurs dans le montage... sonore. Non, après, c'est avec cette famille, les amis de Svetlana, c'était pareil. Ils exprimaient ce qu'ils avaient exprimé. Je pense qu'ils voulaient que le monde entende leurs conditions de vie et que ça change, en fait. Ils le disent, que ça change, putain, que ça change. Ils le disent de différentes manières, selon les thématiques abordées, mais ils le disent. Et le micro, il passe assez bien par rapport à ça, parce qu'il n'y a pas l'image. Moi, c'est ce que je constate à chaque fois que je prends du son.
Et là, ce qui est hyper dur à ce moment-là pour nous, c'est quand même parce que le problème de fond, c'est un problème d'accès au droit, quoi. Est-ce que c'est ce dont parlait Kérimi tout à l'heure au niveau du rôle de l'État? Et puis, nous, on a quand même une forme d'impuissance qui est compliquée à vivre. Enfin, c'est pas pour nous que c'est plus compliqué à vivre, mais en tout cas, c'est vraiment compliqué d'avoir accès à certains leviers pour filer un vrai coup de main de fond aux gens, finalement. Voilà.
Ouais.
Okay. Ça reste des petits pansements, ouais.
Et du coup, moi, je pense à pareil. J'ai des petits flashs là, des moments de prise de vue, et je pense particulièrement à Casmajou, de nouveau, quand on y est passé, et à ces endroits où il y a vraiment deux choses complètement opposées entre la misère qu'il y a là-bas et des espèces d'endroits, je ne vais pas dire magiques, mais assez suspendus, comme par exemple Yeterkon est allé faire une prise de son chez ce monsieur qui a repeint absolument tout l'espace dans lequel il habitait. Il y a des grandes fresques qu'il a peintes partout. Il a récupéré des guirlandes et des objets partout dans la rue, dans les poubelles. Et il a créé un espèce de musée absolument incroyable dans sa chambre. Il a refait un cocon. Et c'est ce qu'on disait aussi, bah, l'envie de nous présenter son lieu, de nous accueillir chez lui et de partager un moment avec nous. Et c'est vrai que ces moments étaient assez précieux et riches. Et de rentrer aussi dans des espaces comme Casmajou qui sont immenses, où c'est jour de lessive, et où d'un coup il y a les fils avec la lessive étendue de tous les côtés, cette odeur, l'odeur de lessive à fond hyper fort, avec les enfants qui jouent partout. Enfin, il y a des vies en fait qu'on connaît absolument pas. Et
oui, comme tu dis, alors je me souviens du nom de la personne, c'est Imran. Mmh. Imran, donc Imran, c'est la dame. Oui, alors toi, c'est ce qui t'a marqué. Moi, ce qui m'a marqué, par exemple, c'était rencontrer donc cette famille par le biais de Svetlana, et dont la maman s'appelle Imran, et celle qui fait donc les poubelles et qui va vendre dans le marché Opus de Bougainville. Et alors, c'était deux pièces. Tu m'aides à décrire l'espace, oui, si tu veux bien. À un moment donné, alors je rentre, toi, tu avais l'habitude d'y aller. Et moi, je rentre. Déjà, le bâtiment, moi, ça m'a choqué. On rentre dans un bâtiment qui pouvait s'effondrer d'un instant à l'autre. On monte les escaliers, certaines marches n'existaient plus. C'était assez troublant. On monte un étage, puis deux étages. On rentre dans un appartement. Et dans cet appartement, il y a deux pièces. Il n'y a rien d'autre que le matelas, une table, des chaises, et c'est tout, une télé. C'est bien ça. Mmh. Et puis les murs délabrés, enfin bref, les câbles de partout qui traînent.
L'électricité, oui.
Le danger dans lequel vivaient ces personnes-là, moi, ça m'a frappé. Ça, je ne peux pas le rendre compte en son. Mais à un moment donné, je vois donc Imran me présenter ses enfants. Un enfant, deux enfants, trois enfants, quatre enfants, quatre enfants. Quatre enfants dans un espace qui fait pas plus de 30 mètres carrés. On est d'accord, c'était 30 mètres carrés à peu près, même peut-être moins.
Grosso modo, à peine plus.
Ouais.
Et puis aussi, ce qui est difficilement transcriptible, c'est aussi les niveaux de violence, parce qu'évidemment, grosse précarité, bon, il y a aussi une certaine forme de réseau et qui joue sur les squats, enfin bref, c'est compliqué. Et ces familles-là, cette famille-là en particulier, avait subi des niveaux de violence complètement dingues. Et le squat où on est allé ensemble, il a fini par se faire expulser.
Le Casmajou
Lequel
Là où Imran habitait.
En gros, du fait de la progression du projet Romed.
D'accord.
Voilà. Et par chance, ils ont pu bénéficier d'une chambre d'hôtel pendant plusieurs semaines, plusieurs mois derrière. Et finalement quitter Marseille.
Pour aller
aujourd'hui,
s'installer.
Ils sont loin du marché. Ils sont plutôt
dans le nord de la France, à Rouen, il me semble. Je les avais appelés à Rouen ou à Rennes, je sais plus.
Ils sont en Bretagne.
En Bretagne, ouais. Et puis ils sont pris en charge entre guillemets. C'est bien ça. On a la suite.
Ouais, mais c'est une des familles qui a eu la chance, qui a pris une décision complètement subite de partir du jour au lendemain avec tous les gamins dans un bus et pas grand chose. Et finalement, ils sont bien tombés.
Et ouais. Moi, par exemple, Imran, c'est une de mes rencontres les plus belles. Et je la porte sur mon cœur et je lui souhaite plein de réussite à elle et à sa famille. Alors nous avons des choses à rajouter. On arrive un petit peu à la fin de notre émission. Vas-y, je t'en prie, t'as le micro, Marine. Dis ce que t'as à dire, même si c'est intime.
Non, je voulais savoir. Je me disais peut-être on peut passer le poème de Driss, ou tu veux le passer sur la fin comme
Non,
ça.
On va le passer et puis on y revient. On pourra faire un petit...
Parce que Driss est un de nos médiateurs qui nous a beaucoup ouvert de portes également sur notamment les personnes vivant à la rue. C'est un médiateur que Sophie m'a présenté lors d'une d'une de nos visites dans un hôtel. Et tous ces recrutements se sont faits un peu au fil à mesure. Et du coup, ça nous a vraiment permis d'accéder, comme vous disiez, la salle Ingros, c'est grâce à Snitvana. Parce que c'était des lieux qui n'étaient pas du tout suivis par des structures. Donc c'est vraiment je tiens vraiment à remercier les médiateurs et médiatrices, parce que c'est vraiment eux qui nous ont permis l'accès quand même dans beaucoup.
Alors quand
beaucoup
tu dis médiateurs et médiatrices, c'est des personnes qui sont déjà sur le terrain, qui connaissent déjà beaucoup de monde et qui ont déjà une place, et une connaissance de réseaux de personnes. Driss, par exemple, alors moi, ça a aussi été une rencontre dans ma prise de son. Tu m'as mis en contact avec lui et je découvre que c'est un gars qui était dans la rue, qui par la suite a été embauché, qui a eu un salaire, qui a eu un logement et qui a travaillé avec vous.
Exactement. Ils ont tous rebondi sur d'autres structures, d'autres assos. Ouais, c'est chouette.
Et Driss me disait qu'il a été employé, qu'il était super ravi et que ça lui avait permis de sortir de la rue aussi.
Exactement.
Ça aussi, j'en ai oublié de le préciser, mais... On ne pouvait pas sortir les 1200 personnes de la rue, mais en tout cas, les quelques personnes en question, quand ça s'est mis en place autour de l'étude, ça a été intéressant, j'imagine, très important pour elles.
Ouais. Ben, ça a été un win-to-win, quoi. Ça a été vraiment... eux, ils nous ont aidés de façon impressionnante. Mais en même temps, on a essayé de le rendre... On a essayé de les mettre en lien avec des structures, des associations. Et ce qui est chouette, c'est que ça continue. Grace, c'est pareil. Et Snitvana, c'est pareil, là. Elle est recrutée sur un nouveau projet.
Alors, on va écouter le poème du clown de la rue, comme il se... Du clown de Gouttière, pardon. C'est le nom d'artiste de Driss. Et ça s'appelle The Mask. Je balance et je baisse au micro dans une seconde.
Le thème, c'est le masque. Le titre, c'est les yeux. Cher masque, depuis que tu es entré dans nos vies, on a réappris à se regarder dans les yeux. On a réappris à se parler. Car on a trop été enfermés. Des gens qui ne se seraient jamais parlé se sont mis à se côtoyer. Il est vrai que ce n'est pas que grâce à toi, mais aussi la raison pour laquelle tu es venu à nous. Tout le monde te hait, mais il faut avouer, tu as changé le regard sur la vie de millions de personnes. Mais il va quand même falloir que ton heure sonne. Texte de Clown de Gouttière.
Voilà. Voilà Driss, qu'on vient d'entendre sur les ondes de Radio Galère 88.4 dans l'émission Libre Débat. Merci Driss. Merci Clown de Gouttière, il va me tuer. Parce qu'en fait, j'aurais dû le nommer Clown de Gouttière. Voilà. Donc Driss, bonne rencontre me concernant et j'imagine pour vous aussi. Un petit bonjour à Driss s'il nous écoute. Et voilà, en gros... Qu'est-ce que vous avez pensé de ce poème d'ailleurs, de Driss? Il parle pas de n'importe quoi là.
Ah, moi je rigole beaucoup dans mon coin parce que Driss c'était quelqu'un au début qui se faisait gronder parce qu'il mettait pas son masque quand il rentrait dans les bureaux de Médecins du Monde. Donc ça me fait rigoler. Mais il a fait beaucoup d'autres poèmes aussi qui sont très chouettes. J'espère qu'il va continuer à se former sur tout ce qui est un peu théâtre, clown. C'était très chouette d'aller sur le terrain avec lui, parce que c'est vrai que des fois, c'était très compliqué. Hein. Des fois, c'est dur. Hein. On allait dans des zones très, très dures, de voir cette précarité, d'être dans l'urgence, de ne pas vraiment avoir de temps de débriefing. Et ces petites blagues de Driss nous faisaient toujours rire. Mais on mettait toujours un peu de soleil dans nos cœurs.
Voilà, on va arriver à la fin de notre émission. Est-ce que vous avez des choses à rajouter avant qu'on... Avant de réannoncer l'expo.
Ouais, on peut réannoncer l'expo.
Vas-y, tu veux le faire, je t'en prie.
C'est du 2 au 10 et préciser du coup que c'est les samedis, dimanches et mercredis de 15h à 19h à chaque fois. Voilà, c'est pas ouvert pendant 15 jours non-stop, c'est sur les après-midi, samedi, dimanche, mercredi, samedi, dimanche, la semaine d'après, et qu'il y aura à chaque fois des personnes des équipes. Donc vous pourrez évidemment voir tout ce qui se passe au niveau de l'expo, mais aussi rencontrer des personnes avec qui vous pourrez parler, poser des questions.
Ouais, est-ce qu'il y a un lien internet, Facebook, ou est-ce qu'on peut avoir accès à l'info en tapant Covid Homeless, j'imagine,
hein? Oui, bah, y a eu beaucoup d'événements qui ont été mis en ligne sur Facebook, sur Instagram, par l'APHM, par le laboratoire du CESTIM, par la Friche également.
Il suffit de taper la friche et on a accès
voilà,
à l'info.
C'est sur la programmation de la friche. Ouais. D'ailleurs, je tiens à remercier beaucoup toute l'équipe de la friche qui nous a quand même invités et puis qui nous a permis de faire cette exposition. Donc, un grand merci à eux. Ouais.
Et moi, je tiens à remercier toute l'équipe, à vous remercier vous de votre présence, à remercier Émilie et Camille à distance aussi, sans vous, je n'aurais pas pu tenir l'émission toute seule. Hein. Je veux dire, ça n'a pas de sens sinon. Tu veux rajouter quelque chose, Mathieu, Sophie, vous voulez rajouter quelque chose?
Non, merci à toi et puis merci aux différentes communautés, aux gens qui nous ont accueillis. Hein. Je pense à Francis, Indriti, Blérim, communauté albanaise, serbe, bulgare, nigériane. Voilà, un paquet de gens très chouettes qu'on a pu croiser pendant des mois et des mois. Un grand bonjour.
Et venez voir l'expo, ça va déchirer.
Je pense que vous allez avoir... ça va plus que déchirer. Je pense que vous allez recevoir une sacrée claque aussi parce que l'analyse, elle est sacrément bien foutue. Et puis, on donne la parole à ceux qui font l'étude, certes, mais on donne aussi la parole à ces personnes directement concernées. On va pas que d'un côté, quoi. Ouais. Voilà. Je vous souhaite donc une bonne suite d'écoute sur Radio Galère 88.4. L'émission Libre Débat termine. Et pour terminer, je vais vous balancer un son. Je pense que je vais mettre du Kazé, Rêve illimité. Et parce que j'aime bien ce son et aussi que c'est pas n'importe quel son. Et ça va aussi avec la thématique.
Merci Yéter, merci Rémi Galère.
Merci, ouais.
Merci, ouais.
On y va. Être de